Quel est ce chant qui me titille les oreilles ? Chut ! Fermons les yeux et faisons l'expérience d'un paysage.
Il y a énormément de bruit dans la forêt, énormément quoi. Beaucoup d'oiseaux, il y a le singe hurleur qu'on entend très loin, des toucans, des gros toucans. Entre les grillons, les criquets, les cigales, il y a des tas de bestioles qui sifflent, il y a des grenouilles, les bruits sont intenses. Et il y a un bruit aussi qui à chaque fois me... Enfin, j'adore. C'est d'entendre la pluie arriver. Parce qu'on est, souvent, enfin milieu tropical, donc on est souvent pris dans des ondées. Et donc c'est des grosses gouttes qu'on entend de loin taper dans les feuilles, et elle s'approche comme ça, et il y a cette petite brise aussi dans les arbres juste avant l'ondée, et après le bruit de ces gouttes sur les feuilles, elles prennent le pas sur tous les autres bruits. On n'entend plus que la pluie intense, et après ça passe et ça recommence à chanter.
Derrière le chant du toucan se cache la voix d'Éric Guilbert. Si j'étais un naturaliste du 21e siècle, je serais...
En Calédonie, c'est complètement différent.
Éric Guilbert.
On s'est retrouvé dans les forêts où il n'y a presque pas de bruit. Et il y a une chaleur qui s'installe, qui rend tout amorphe, comme si la forêt était en attente d'une fraîcheur, d'un repos. C'est pas du tout les mêmes sensations. C'est pas les mêmes arbres non plus, bien sûr. Alors... Chaque forêt a sa personnalité, elles sont toutes différentes, et à chaque fois, je me suis retrouvé dans des endroits où les sons étaient différents, les arbres différents, l'ambiance différente.
Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui ? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste ? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce ? Pour y répondre, vite, embarquons, avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Éric Guilbert, deuxième escale, le terrain, au sommet des grands arbres.
Donc on part, dans 2 jours, on va atterrir à Cayenne. Là, on va prendre un véhicule, on va se diriger sur Saint-Georges, qui est à la frontière avec le Brésil, sur le Yapok. On ira ensuite à Camp Bonaventure, qui est un peu plus à l'intérieur des terres, au-dessus de Regina. Faut savoir que la Guyane, c'est quand même les portes de l'Amazonie pour l'Europe, hein, soit dit en passant. Donc on a un territoire qui est à 95% recouvert par de la forêt, donc c'est un vrai terrain de jeu. La forêt, elle est magnifique.
C'est quoi, c'est la forêt primaire, encore
Oui, il y a beaucoup. Alors il y a pas mal de morceaux perturbés où on va, n'est-ce pas? Mais ça reste quand même de la très belle forêt dans certains coins. Primaire, ouais. Plus ou moins, enfin, il y a quand même eu de l'orpaillage, il y a eu de la chasse, c'est difficile aujourd'hui de trouver des coins vierges. Donc, 95%, c'est quand même de la forêt. On peut, par exemple, si on va au camp des Nourags, les Nourags, c'est en Guyane, hein, c'est une station de recherche qui est au fin fond de la forêt. Il faut donc 6 heures de pirogue pour y aller. Et là, on est dans des endroits où, oui, il y a une empreinte humaine, mais elle est somme toute très faible. Donc, on a vraiment de la belle forêt avec toute une faune et une flore qui est quand même relativement intacte.
Position. Guyane, réserve naturelle nationale des Nourags. Sommet des grands arbres.
Altitude.
40 mètres.
Latitude.
52 degrés ouest.
Longitude.
4 degrés nord. Dans ce deuxième épisode, Munissons-nous d'une machette, d'un baudrier et d'un aspirateur à bouche pour explorer la forêt équatoriale de Guyane en compagnie de l'entomologiste Éric Guilbert. Alors, laissons l'orage s'éloigner et grimpons au sommet des grands arbres à 40 mètres d'altitude pour y découvrir le lieu le plus vivant du monde.
Déjà, on va chercher les arbres sur lesquels vont se balader toutes ces bêtes pour manger les frugivores. Donc, il y a de la prospection de départ. Machette, oui, pourquoi pas, faut pas se faire mal. Le sécateur, très utile. Bien, un sécateur. Ça évite le coup de machette sur le tibia quand on n'est pas réveillé. Il y a un côté prospectif qui est assez intense des fois. On peut aller loin. On grimpe, donc on a quand même des cordes et tout un matériel qui fait pas loin de 20 kg qu'on a sur le dos. Donc au bout d'une heure de marche, ça calme quand même. Surtout au milieu tropical. Il fait chaud, il fait humide. Donc c'est de l'aventure, ça reste de l'aventure. On sait où on est, contrairement à Buffon quand il était perdu, Dieu sait où. Oui. Mais ça reste de l'aventure, il y a un investissement, je veux dire.
Et justement, qu'est-ce que vous prenez dans vos bagages? Parce qu'au XVIIIe siècle, les naturalistes avaient des bagages incroyables. Ils avaient des ouvrages de référence, des boîtes pour conserver les espèces et les faire voyager. Ils avaient énormément d'outils. Qu'en est-il aujourd'hui de vos bagages? Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit inventaire? Est-ce qu'il y aura un objet emblématique en tant qu'entomologiste du XXIe dans ce bagage?
Alors, l'entomologiste, il se balade forcément avec une pince. Je connais pas d'entomologiste qui se balade pas avec la pince autour du cou, avec un petit filin. L'aspirateur à bouche, très très utile pour l'entomologiste. C'est un espèce, c'est un tube avec deux trous et deux caoutchoucs, on va dire ça comme ça. Il y en a un qui sert d'aspirateur, et il y en a un autre qu'on relie à la bouche. Et le but du jeu, c'est d'aspirer la bête quand on la voit, par exemple, sur une feuille. Alors évidemment, il y a un tamis à l'intérieur, du coup, la bête, elle est aspirée, elle va dans le tube, elle ne remonte pas jusqu'à la bouche, parce qu'évidemment, il y a un tamis pour éviter de se nourrir des insectes qu'on récolte. Parce que le but du jeu, c'est quand même de les garder, pour les amener au labo, et les étudier. Donc voilà, avec des petits tubes, et puis de l'alcool à 95, c'est bien, comme ça on peut mettre les bêtes directement et les fixer dans le tube. Comme ça, on peut tout faire au labo après. Extraction moléculaire, analyse morphologique, morphométrique, microscope et que sais-je encore.
Et alors ça fait moins d'un kilo, je dirais. Donc les 19 autres kilos, dans vos bagages, qu'est-ce qu'il y a?
Là, parce que moi, je parle de grimpe. Donc évidemment, si on va grimper pour aller chercher les bêtes dans les arbres, parce que bon, comme c'est un milieu qui est difficilement accessible, il y a peu d'études qui sont axées dans la canopée. Donc évidemment, quand on va dans les arbres, on récupère des trucs qu'on ne voit pas en bas. Et donc des trucs assez intéressants, voire nouveaux. Alors évidemment, grimper, ça veut dire des cordes, un baudrier, et ça pèse tout de suite, quoi. Donc oui, c'est vite 20 kilos. Donc l'essentiel du bagage, c'est le matériel. Ensuite, après, il doit y avoir 1 kilo pour 3-4 caleçons et 2 t-shirts.
Est-ce que vous pouvez nous donner un petit cours? Comment est-ce qu'on grimpe ces troncs nus? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit cours de grimpe d'arbres? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des techniques spéciales? Est-ce que c'est un truc de super-héros? Comment ça se passe?
Non, pas super-héros, sinon on n'y serait pas, déjà. C'est des techniques issues de l'élagage. Ça veut dire qu'en fait, on a une espèce de fronde montée sur un espèce de gros caoutchouc monté sur un manche de 2 mètres 53 mètres. Et on va balancer un petit sac avec un filin le plus haut possible. On va ensuite mettre la corde d'accès à la place du filin, ravaler le filin pour installer la corde sur une charpentière, une grosse branche. Et une fois que la corde d'accès est installée, on va grimper sur cette corde jusqu'à l'arbre.
Alors, c'est acrobatique quand même, j'imagine. Ouais. C'est dangereux ?
Dangereux si le montage est bien fait, non. Et évidemment, il y a tout un tas de règles de sécurité qu'on applique pour s'assurer qu'on est sur une branche porteuse. On prend plusieurs branches comme sécurité. Ça veut dire que s'il y a une branche qui casse, il y en aura forcément une deuxième pour tenir la corde. Enfin, il y a tout un tas de règles à suivre, de façon à ce que l'accès se fasse en toute sécurité. Ce qui est le cas, hein, parce que bon, on n'est jamais tombé. D'ailleurs, on ne serait pas là pour en parler, sinon. Non, c'est. J'allais dire, c'est assez.
Oui, à 50 mètres de hauteur, ouais, effectivement.
Ouais, non, 40 mètres de, 40-50 mètres de hauteur, ça ne pardonne pas. Hein.
Mais du coup, vous restez mobile, ça veut dire, dans les arbres, en fait.
Ouais.
Une corde, parce que je ne sais plus, à un moment donné, on entendait parler de Francis Allais avec tous ses radeaux des cimes. Enfin, voilà, je sais qu'on l'avait reçu à la radio, mais c'est quand même plus lourd comme structure.
Voilà, on est vraiment sur une méthode le plus light possible, dans le sens où il nous suffit de nos cordes, donc on est beaucoup plus mobile. Ça veut dire que les cordes, elles sont installées sur l'arbre. Quand on a fini de travailler sur l'arbre, on désinstalle tout et il n'y a pas de traces. C'est-à-dire l'arbre ne... Il n'y a aucune conséquence sur l'arbre quand on grimpe dessus. Il n'y a pas les griffes, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est assez.
Ouais, ça préserve le milieu naturel lequel.
C'est des méthodes, c'est des méthodes soft, j'allais dire.
Mais c'est assez naturel, en fait, parce que j'ai lu quelque part que l'homme était d'origine arboricole, en fait, qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 30 millions d'années, on vivait dans la forêt équatoriale et que, pour preuve, notre verticalité, nos bras pour attraper les branches, est-ce que c'est vrai, ça?
Ah ouais, c'est vrai, hein, il ne s'était pas trompé, Darwin. On descend de l'arbre, mais on y remonte aussi. Ouais, moi, j'aime bien, hein, on retrouve un peu des instincts qui sont restés cachés pendant longtemps, c'est assez agréable.
Comment est-ce que vous choisissez votre poste d'observation, là où vous allez poser vos caméras, justement? J'imagine que ça se mérite. Quels sont vos critères de choix?
Là, en l'occurrence, pour ces caméras, on va être sur des espèces d'arbres qui s'appellent... Enfin, du genre Virola. C'est des bestiaux qui font quand même 40 à 50 mètres de haut. C'est un fût avec le houppier tout en hauteur.
Houppier,
c'est la cime des arbres avec les branches et ce machin-là. Donc c'est des gros arbres, hein, c'est vraiment des gros arbres. Mais en gros, c'est des grosses branches, des grosses charpentières qui vont partir, mais que du haut. Donc tout le reste du tronc est sans branches, donc assez compliqué à monter. Mais une fois là-haut, il y a en fait tout un tas de... Les fruits, c'est des petits fruits, ça ressemble à des, j'allais dire, des noix de muscade ou un peu plus grosses même.
Donc ce sont des arbres qui attirent certaines espèces,
ouais.
et des prédateurs. Enfin, pourquoi ces espèces-là?
Parce que du coup, comme il y a des fruits, tous les frugivores vont y courir pour aller manger. Qui dit frugivore dit forcément les prédateurs qui vont avec. Enfin, il y a toute une faune qui suit ces frugivores. Et donc du coup, en bas, par défécation, va y avoir aussi tout un tas de bêtes qui profitent de ces frugivores. Il y a aussi toute la faune qui va profiter des fruits qui, eux, seront tombés, mangés ou pas, d'ailleurs. Donc, non, il y a autour d'un seul arbre, il y a toute une faune. Alors là en fait, ça intéresse aussi les coprophages, enfin, les insectes, mais le but du jeu, c'est d'aller mettre des caméras dans les arbres pour avoir une idée de la structure des communautés de frugivores qui se baladent là-haut dans la canopée, qui mangent les graines, qui disséminent les graines et qui sont bien évidemment impactées par la déforestation, la chasse, etc., etc.
Donc c'est d'évaluer aussi l'évolution de ces espèces, peut-être éventuellement leur déclin.
Oui, c'est ça, c'est de voir comment elles réagissent, donc voir si elles déclinent, si elles disparaissent, si elles changent, s'il y a des espèces opportunistes qui vont prendre la place de celles qui se sont sauvées.
Alors qu'en est-il aujourd'hui de cette partie de forêt? Est-ce que vous avez observé vraiment des choses significatives au niveau des espèces, de l'évolution?
Oui, on voit déjà des changements. Par exemple, le quata, qui est un attel, enfin un singe araignée, il est ultra fragile et il est chassé. Bon, il a disparu des abords de la RN2 là aujourd'hui. Et en fait, la dissémination des graines a encore lieu parce qu'il y a une petite bête qui s'appelle le quincajou, qui est proche du raton laveur, qui se balade dans les arbres et qui a pris sa place. Alors, on est toujours dans le cadre de l'hypothèse, hein, parce que c'est un programme qui est sur du long terme, donc l'idée c'est de voir comment ça évolue, mais apparemment, oui, il y a eu des remplacements, enfin, la communauté d'espèces n'est plus la même.
Et est-ce que vous avez déjà bivouaqué en haut des arbres la nuit, dans cette forêt?
Dans l'équipe qui viendra à la deuxième session de ce programme de cette année, on fera du... Elle fait du piège lumineux. Donc, de nuit... On fera du piège lumineux, on met une grosse lampe devant un drap blanc. Et il y a toute une faune qui est active la nuit et qu'on ne voit pas le jour. Donc on va bien évidemment récupérer beaucoup, beaucoup de bêtes qu'on ne verra pas de jour non plus.
Et, voilà. Et comment justement on travaille à 50 mètres du sol? Alors comment on collecte? Comment ça se passe?
On est beaucoup moins mobile qu'au sol. hein, parce que on fait bien évidemment attention à ses gestes, parce que voilà, le sol est loin. Donc on est moins mobile, mais en fait on utilise les mêmes techniques qu'au sol. En tout cas pour les insectes, ça va être la pince, l'aspirateur à bouche, la nappe de battage pour ce qui est de mes punaises. D'autres utiliseront...
La nappe de battage, c'est...
Voilà, c'est cette espèce de carré... Enfin, on appelle ça un parapluie japonais.
Volant. D'accord.
Voilà, c'est une espèce de parapluie en sous forme de rectangle. On bat la végétation. Donc, du coup, toutes les bêtes qui sont sur les branches, les feuilles, tout ça, elles tombent dans cette nappe blanche. Et ensuite, à l'aspirateur à bouche ou à la pince, je les récupère. Mais j'ai une marge de manœuvre dans un arbre qui est bien moindre qu'au sol, parce que se déplacer dans les branches... Parce qu'une fois qu'on est monté sur la corde d'accès, on passe sur ce qu'on appelle le rappel. C'est une deuxième corde qui est plus souple et qui permet de se balader dans l'arbre. Mais tous les arbres ne s'y prêtent pas. Et évidemment, il y a des branches qui sont plus petites que d'autres. Donc le déplacement est plus difficile. Donc un arbre, selon les arbres, leur configuration, ça peut être de 1 heure à 4 heures. Il nous est arrivé de rester 4 heures dans des arbres énormes, le temps de faire le tour.
D'accord.
Un peu pour le plaisir aussi d'ailleurs, mais bon.
Et j'imagine qu'à chaque expédition, à chaque grimpe, vous trouvez des espèces nouvelles. Souvent.
Ouais, souvent.
Quelle émotion vous avez face à une découverte?
Ah bah c'est exaltant, parce que ça c'est le fruit d'une grosse labeur quand même. Donc à chaque fois on est content, c'est exaltant. On se dit donc de retour au labo, on aura de la matière, je vais dire originale. On a des nouvelles données, des trucs qui vont nous apporter beaucoup d'infos. Enfin, on augmente nos connaissances, et dès qu'on augmente nos connaissances, c'est gratifiant. Voilà.
Ouais. Et vous ouvrez des nouvelles portes, j'imagine. En fait, c'est tout ça qui est prometteur.
Ouais, c'est ça. C'est une histoire sans fin, en fait. Chaque découverte apporte de nouvelles questions ou apporte d'autres découvertes. Donc, on va de l'avant.
À suivre. Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. Éric Guilbert, deuxième escale, au sommet des grands arbres. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.